Alors, le message ce matin m'a été demandé de parler de Gédéon. Ah, c'est un personnage important, peu connu et très intéressant. Vous connaissez tous les récits de la sortie d'Égypte et des 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. Alors, pendant ces 40 ans, il y a de nombreux miracles et des victoires, comme à Jéricho. Mais le peuple rebelle est souvent puni par Dieu, par exemple attaqué par des ennemis, ou même par des serpents, comme vous le voyez, c'est nombre 32, à tel point qu'à part Caleb et Josué, aucun Israélite sorti d'Égypte n'arrivera vivant en terre promise. Aïe, aïe, aïe. Une fois arrivé au Canaan, on pouvait espérer que tout s'arrange, n'est-ce pas? Alors que Josué les avertit en leur disant, vous connaissez certainement ce verset, « Choisissez qui vous voulez servir, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est beau ça. Malheureusement, une fois les tribus dispersées en Canaan, ici et là, le peuple hébreu abandonne Dieu et adore les idoles locales, Baal et Astarté. Alors on entre dans une période la plus difficile de l'Ancien Testament, on peut dire celle où chacun faisait ce qu'il veut, rejetant l'Éternel et choisissant d'autres dieux. C'est pas ça qui manquait hein, sur le moment. Et un vrai combat s'engage entre les Israélites et Dieu. Comme Jacob et Moïse qui se sont battus contre l'ange de l'Éternel, le peuple hébreu va se battre contre Dieu lui-même. C'est le cycle des juges. Voyons de quoi il s'agit. Première étape du cycle, ils vivent d'abord dans une certaine stabilité spirituelle parce qu'ils sont unis autour de Josué. Ouais, mais après la mort de Josué, il s'élève une nouvelle génération qui ne connaissait pas Dieu et l'abandonne. Juge 2. Mais retenez cette phrase parce que vous la connaissez. Alors, ils firent tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Conséquence, Dieu suscite des ennemis qui vont attaquer le peuple hébreu. C'est la deuxième étape du cycle. Troisième étape, les Israélites, évidemment, hein, ils perdent des batailles. Hein. Ils souffrent, ils sont découragés. Quatrième étape, ils sont affaiblis, désespérés, à un point, les pauvres Hébreux gémissent et se mettent enfin à prier Dieu. Cinquième étape, Dieu est content, il répond à leurs prières, il va choisir un juge chargé de les délivrer de leurs ennemis. Et c'est la sixième étape, le peuple part en guerre avec l'aide du juge et Dieu leur donne la victoire. Waouh ! Septième étape, le peuple s'humilie et se reconsacre à Dieu. Ah, enfin quoi, hein ! Ainsi, pendant quelques années, redevenus fidèles à l'Éternel, la paix règne et une nouvelle stabilité spirituelle s'établit. Ouais. Mais combien de temps cette stabilité va-t-elle durer ? Pas pour longtemps, malheureusement. Car cette rébellion est chronique. L'attrait des idoles locales, et surtout des femmes locales, pour les messieurs, hein, les pousse à nouveau à oublier Dieu. Et ils firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors ce cycle va se reproduire inévitablement, il le fait. Ça s'est produit approximativement pendant 200 ans, avec l'intervention de 12 juges. Voilà pour le contexte historique. Alors j'aimerais ce matin examiner la vie de l'un de ces 12 juges, Gédéon. Le choix de Dieu est étonnant, étrange. Moi j'aurais jamais fait comme ça, hein, évidemment. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu choisit Gédéon, Un homme qui n'est ni solide, ni capable. Ce n'est qu'un pauvre paysan qui bat son blé, sans cesse menacé par les voleurs. Un homme découragé, mal dans sa peau, s'estimant le plus médiocre de toute sa famille. Il a une très mauvaise estime de lui-même. Et de plus, alors, ça c'est le pire, son père a édifié parmi eux un autel au dieu Baal. Non, mais... Et voilà que l'ange de l'Éternel lui demande d'aller sauver son peuple des ennemis madianites. Quoi ? Gédéon répond, ouais, mais qui suis-je pour accomplir une telle tâche ? Il réagit comme Moïse devant le buisson ardent, par la crainte. Dieu l'a choisi, mais d'abord, il doit le guérir, le fortifier, et lui donner force et courage. C'est pourquoi il dit à Gédéon, « C'est moi, Dieu, qui t'envoie, vaillant héros. » Quoi ? Gédéon, à la fois impressionné et effrayé, par cette tâche, construit un autel pour honorer Dieu. Et selon la coutume, bien, il fait une offrande. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Répands ton offrande sur l'autel. » C'était l'habitude de l'époque de faire ça. Et c'est ce que Gédéon fait. Alors l'ange étendit son bâton et l'offrande fut consumée par le feu qui sortit du rocher. Premier miracle destiné à convaincre Gédéon. Mais celui-ci, il ne supporte pas, il est paniqué de voir ça. Il dit, malheur à moi, moi qui ai vu l'Éternel. Mais Dieu le rassure et le bénit. Gédéon, maintenant fortifié, obéit aux ordres de l'Éternel, qui lui demande de détruire, pour commencer déjà, de détruire l'autel de Baal construit par son propre père. Mais comme il a la trouille, par crainte, il va le détruire pendant la nuit pour qu'on ne le voie pas. Mais les gens découvrent qui a commis ce blasphème d'attaquer Baal. Et ils exigent, ils découvrent qui c'est, que c'est Gédéon, et ils demandent au père de Gédéon de mettre à mort son propre fils Gédéon. Deuxième miracle. Son père a compris que Dieu est intervenu à travers son fils Gédéon. Alors il répond à ceux qui veulent qu'on tue son fils, il leur dit, mais... Si Baal existe vraiment, qu'il se débrouille lui-même. C'est la grande victoire de Gédéon. Il est fortifié, il prend courage, il appelle le peuple et les autres tribus à se rassembler pour se battre contre les Madianites. Ouais, mais à nouveau, il faut se battre, la crainte le saisit. Il demande à Dieu une nouvelle preuve de sa présence. Il y a plusieurs miracles, il veut encore un miracle. Alors Dieu fait un double miracle sur le manteau de Gédéon, c'est connu ça, pour lui confirmer sa mission et l'encourager. Bon, alors Gédéon maintenant, dans une totale confiance en l'Éternel, va de l'avant. Il réunit 30 000 soldats israéliens et les prépare à la bataille. Bon, cette première partie du texte, elle nous concerne personnellement, n'est-ce pas ? Dieu aimerait nous utiliser, nous aussi, mais il arrive que notre mauvaise estime de nous, nos vieilles blessures, nous empêchent d'aller de l'avant, comme avec Gédéon. Pourquoi ? Parce que nous nous considérons parfois non pas comme de vaillants héros, mais plutôt comme de vaillants zéros. Héros ou zéro, hein ? Pourquoi zéro ? Parce que la crainte nous habite, et affaiblit notre foi. Alors, demandons au Seigneur de nous révéler nos faiblesses, c'est ce qu'on pourra faire pendant la Sainte Cène, nous libérer de la faiblesse et des craintes. Bon, il y a d'une part en nous des blessures du passé qui nous freinent, mais comme pour Gédéon, il y a aussi des habitudes, des comportements hérités de nos familles, de notre culture actuelle, tout ça qui attaque notre foi. Donc, il faut parfois supprimer nos idoles personnelles à faire pendant la Sainte Cène. Nos idoles personnelles, des fois familiales ou culturelles. Et si Dieu nous donne une mission, vous donne une mission, ne lui dites pas « Ah, qui suis-je pour accomplir une telle tâche ? Je suis trop peu de choses. » Dites-lui plutôt « Avec mes propres forces, jamais je n'y arriverai. Mais si tu me fortifies, si tu me guides à chaque instant, là, je crois que je vais y arriver. » Autre moyen d'avancer, c'est d'oser demander à Dieu des confirmations, des signes que me prouve que c'est bien Dieu qui m'envoie, parce qu'il me parle des fois, je ne le vois pas. Observons ses réponses, et même les miracles qu'il pourrait faire pour nous encourager. Dieu va ainsi me rappeler qu'il m'a choisi, et il veut choisir chacun de nous, malgré nos faiblesses, pour apprendre à dépendre de lui totalement afin de bien mener en avant la mission qu'il veut nous donner. Bon, c'est ce que Dieu a fait avec Gédéon, qui, confiant, part au combat. C'est là que Dieu va lui enseigner la dépendance et l'obéissance en compliquant complètement le défi de la bataille qui vient. Pour éviter l'orgueil personnel dû à une victoire facile et pour forcer son peuple à donner toute la gloire à Dieu, Dieu va limiter le nombre de soldats. Premier tri, celui des trouillards. C'est facile à faire parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Hein. Et une fois les trouillards exclus, il reste 10 000 soldats. C'est pas mal quand même, mais pour Dieu c'est encore trop. Alors il demande à Gédéon de faire un tri supplémentaire. Alors Gédéon ordonne aux 10 000 soldats restant d'aller boire dans le fleuve. Et ceux qui lapent l'eau avec la langue, comme les animaux, ils sont exclus. Et ceux qui boivent l'eau avec leurs mains, ils sont choisis. Oh là là, il ne reste plus que 300 soldats. C'est avec eux seulement que Gédéon va attaquer les Madianites, qui sont une multitude de soldats. Si peu, 300, alors qu'il aurait normalement 30 000 disponibles. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que le peuple ne compte pas sur ses propres forces, mais sur la puissance de son Dieu. Seul l'Éternel peut gagner une telle bataille. Dans un tel état d'infériorité, à 300 contre des milliers. Aïe, aïe, aïe. Face à des ennemis tellement plus nombreux, le doute s'installe. De nouveau, Gédéon hésite à nouveau. Mais Dieu parle à Gédéon. Écoute ce que diront tes serviteurs. Et durant la nuit, un des soldats fait un songe prophétique. Il voit l'ennemi écrasé. Comment écrasé? Par un pain d'orge grillé qui roule en bas des collines, qui massacre les Madianites. Comme vous voyez, tous ces soldats Madianites massacrés par un morceau de pain. Bizarre. Quel est le sens de ce rêve? Un pain d'orge était un pain de très mauvaise qualité qu'on donnait aux pauvres. Gédéon a compris le message. Hein. Ce modeste pain sans valeur symbolise ma propre modestie. Et notre faible, petite, minuscule armée de 300 combattants. Alors, Gédéon est convaincu par ce rêve prophétique et fait confiance à Dieu. Et il attaque par surprise de nuit, comment ? Avec des torches cachées dans les cruches. Vous voyez cette corche, c'est une torche. Ils peuvent ainsi s'approcher des Madianites endormis parce qu'ils n'y verront pas leur feu, puisqu'ils étaient cachés par les cruches. Ils peuvent s'approcher des Madianites qui sont plus nombreux que les grains de sable au bord de la mer, dit la Bible. Puis les Israélites, ils cassent leurs cruches, sortent leur feu et attaquent proclamant « Victoire pour l'Éternel par Gédéon ». C'est la panique dans le camp ennemi. Ils s'entretuent eux-mêmes et c'est la victoire finale donnée par l'Éternel. Ouais, certes, c'est pas mal. Hein. C'est une victoire fulgurante, certes, mais le peuple a-t-il compris la leçon ? Va-t-il rester fidèle à Dieu grâce à tout ça ? Oui, au début, tant que Gédéon est vivant, la paix règne, le peuple est fidèle pendant une vingtaine d'années. Mais une fois que Gédéon est mort, Baal et Astarté reprennent le pouvoir. Conséquence, on passe au cycle suivant avec un nouveau juge. Et il fera à nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu leur envoie des ennemis qui les battent, ils souffrent, enfin, etc., etc. Et ces cycles vont continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à la venue de Samuel qui donnera l'onction au petit berger David qui deviendra le roi d'Israël et annoncera prophétiquement la royauté de Christ. Première conclusion. Ben, ça nous concerne. Nous sommes piégés dans un cycle identique à celui des juges et que nous en faisons ce qui est mal parfois aux yeux de l'Éternel. Alors n'attendons pas qu'il nous envoie des épreuves, des ennemis et des combats. Non, au plus vite, repentons-nous. Confessons-lui nos péchés, nos faiblesses, et il nous pardonnera. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez une mauvaise estime de vous-même, il y a tellement de chrétiens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, si vous êtes découragé comme Gédéon, priez pour que Dieu vous guérisse de vos craintes et vous ouvre les yeux sur les choses extraordinaires qu'il veut faire à travers vous, à travers chacun de vous, quelle que soit votre situation et vos faiblesses. En effet, nous avons tous été choisis par Dieu pour une tâche particulière. C'est lui qui nous envoie, chacun de nous. Ouais, mais attention quand même, hein. Si tout va très bien, si vous êtes fier de ce que vous faites, si tout ce que vous faites vous réussit, priez pour que l'orgueil et le manque d'humilité ne vous empêchent pas d'être reconnaissant et de lui donner à lui seul la gloire. Pour terminer, regardons cette dernière image prophétique par laquelle Gédéon nous stimule dans notre vie spirituelle. C'est l'idée qu'il a reçue d'attaquer en mettant leur torche dans une cruche afin qu'on ne la voit pas la torche avant de casser les truches pour prendre l'ennemi par surprise et l'anéantir. Commençons par le bras. Le bras dans la feu, vous voyez, il représente notre engagement chrétien de soldat pour combattre l'ennemi. Mais tout seul, notre bras ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin d'être équipé d'armes efficaces. Lesquelles? Bon, ben, nous les avons, vous les connaissez. Elles se trouvent dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'épée de la parole de Dieu. Toutes ces armes sont nos armes du chrétien. Mais animées par la puissance de Dieu, nos armes sont efficaces. Est puissante. Ouais, mais malheureusement, il y a un problème quand même. La puissance divine de nos armes ne sont efficaces qu'au moment où la cruche est brisée. Boum, la cruche est brisée. La torche apparaît. La lumière et le feu du Saint-Esprit apparaissent. La puissance du Christ peut agir et gagner nos batailles. La cruche, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Non, en fait, qu'est-ce que c'est que cette cruche? Je ne vais pas vous traiter de cruche ce matin, quand même. Non, mais la cruche, dans ce texte, c'est notre vieil homme. Pécheur, blessé, handicapé sur le plan spirituel, qui doit être brisé, mourir spirituellement pour vivre une nouvelle naissance. Tant que ce n'est pas fait, nous restons faibles et inefficaces. Alors, mais même lorsque nous avons passé par la nouvelle naissance en Christ, alors guidés par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu peut se manifester en nous et sur nos actions. Mais il faut le Saint-Esprit. Nous pouvons alors accomplir les dernières choses que fait Gédéon, proclamer notre foi avec force à travers un cri. « Victoire à l'Éternel !» Là, il dit « par Gédéon ». Nous, on pourra dire « par quelqu'un ». À vous de voir qui. Prions ce matin, tout à l'heure, pendant la Sainte-Cène, pour que l'Éternel brise la cruche de nos faiblesses et nous fasse entrer dans sa lumière pour être des chrétiens solides et engagés et surtout remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir faire des actes de foi efficace. Voilà, j'aimerais encore vous apporter un bref témoignage. D'abord, un acte de foi pour être soi-même béni par le Seigneur. J'aimerais vous donner un des meilleurs exemples de ce que j'ai pratiqué, que le Seigneur m'a donné comme encouragement alors que j'ai osé pratiquer ma foi avec audace. Après un vol en parapente, il y a quelqu'un en arrivé qui m'a dit « Ah, t'as pris ton parapente ?» Non, j'ai pas pris mon parapente, là. Mais ce jour-là, j'ai fait un joli vol en parapente. Je me suis posé à baie dans un immense champ d'herbe haute d'au moins 40 cm. Vous voyez, de l'herbe haute, 40 cm. Je me suis posé, j'enlève mon casque, je plie ma voile, je rassemble toutes mes affaires, quand je constate soudain « J'ai perdu ma prothèse auditive qui est tombée probablement quand j'ai enlevé mon casque. Cette prothèse auditive qui ne mesure pas plus de 2 cm, mais qui coûte plus de 4000 francs, est tombée dans cet immense champ d'herbe. Cet objet très onéreux semble définitivement perdu. J'ai beau fouiller l'endroit approximatif où j'ai atterri, impossible de la retrouver. Alors mon moral tombe au plus bas, je me lamente. Et un peu plus tard, dépité, juste avant de partir, je me dis, il faut tout de même que je prie, car même si je ne la retrouve pas, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir simplement osé prier, parce que si j'ose prier, je sais que ça fait plaisir au Seigneur. Mais ça risque de pas suffire. Donc, je prie. J'ai dit, Seigneur, je prie, tu m'écoutes? Seigneur, tu sais où elle se trouve, cette prothèse. Alors, avec foi, ce que je vais faire, je vais retourner approximativement à l'endroit de mon atterrissage. Je vais fermer les yeux. Je vais m'asseoir dans l'herbe. Et je vais fouiller l'herbe seulement entre mes deux pieds. Alors, si tu veux vraiment faire un miracle, ben c'est facile, t'as qu'à la mettre ici. Voilà. Alors, dans l'acte, je m'assieds, je ferme les yeux, je m'assieds dans l'air, je regarde entre mes deux souliers, elle était là. Oh, merci Seigneur. Oh, quel encouragement. Ça a bouleversé ma vie. Bon, il ne fait pas tous les jours des miracles comme ça dans notre vie, mais il souhaite en faire de temps en temps. Alors, soyons prêts à vivre des choses. Si j'ai pu faire ça, vous pouvez aussi le faire. Je ne parle pas de faire du parapente. Mais à condition, vous êtes capable de le faire, à condition de bien connaître votre Bible, d'être prêt à prier en toute occasion et d'oser faire des actes de foi, parfois même un peu fous. On se dit, ouais, Dieu va ricaner que je demande ça. Mais non, pas forcément. Ensuite, un acte de foi pour bénir. J'aimerais vous en raconter un autre qui n'est pas pour moi, pour me faire du bien, mais pour bénir ceux qui nous entourent. Ben là, c'était en tant que pasteur, mais ça pourrait être la part de n'importe qui. Comme eux, j'ai appris à faire des actes de foi, même si je prenais parfois le risque de vivre des échecs en public. Par exemple, lors d'un camp de famille à Ardèche, dans l'église où j'étais pasteur, j'avais amené toute mon équipe là-bas pour une semaine, j'ai donné un enseignement sur l'apprentissage de la foi qui consiste à faire confiance aux promesses bibliques. C'est la base, hein, c'est tout ce que j'ai dit. À la fin du camp, le soir du départ, un des participants, c'était un médecin, me partage ses doutes. Il me dit, ouais, hier, tu as fait une onction d'huile sur un bébé qui avait de la fièvre. Ouais, comme médecin, moi, ça me gêne un peu de prier aussi facilement pour n'importe quoi. Ben, j'ai de la peine à y croire, je suis navré de te dire ça, quoi. Eh bien, je lui ai expliqué que Dieu aime nos prières, même s'il ne peut pas toujours y répondre comme on voudrait. Bon, le lendemain, une heure avant le départ, des cris retentissent. Une ado a été mordu par une vipère. C'était dans le sud de la France. Hein. Sur la cheville de la fillette, deux points rouges qui confirmaient que c'était bien une piqûre d'un serpent. Mais tenez-vous bien, il s'agissait de la fille du médecin. Paniqué et inquiet. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Alors on prie, on fait l'onction d'huile sur la cheville de cette fille, ses chevilles qui commencent à enfler. Ma femme et moi-même, on a eu cette conviction. Dieu a permis cet événement pour parler au médecin. Avec ma femme, nous sommes allés lui dire qu'il pouvait rentrer en louant le Seigneur et en lui faisant confiance. Ils sont partis. Arrivé à la maison, ce médecin s'est rué sur ses livres de médecin pour voir qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Et lorsqu'il a vu tout ce qu'il aurait dû faire, il a paniqué. Car en tant que médecin, il a été naïf et incompétent. Mais en laissant Dieu agir, il a pu assister à un vrai miracle. Il a compris que Dieu lui avait parlé personnellement. C'est pour ça qu'il m'a dit, « Oh, jusqu'ici, j'étais un observateur. Je regardais ce que Dieu faisait. Mais maintenant, j'ai vu Dieu à l'œuvre et je crois à la force de la prière. » Et depuis ce jour, ce médecin est devenu un chrétien engagé et plein de foi qui pratique pas seulement son métier de médecin à la vallée de jour, sentier, quoi, comme moi, mais qui faisait son travail de médecin, mais devenant un chrétien engagé. La foi est devenue importante pour lui. Le seul moyen de plaire à Dieu, nous dit la parole, Hébreux 11. Dieu écoute nos prières, c'est une bonne chose des prières, mais il y a mieux encore. Il écoute nos prières, mais il répond à notre foi et à nos actes de foi que nous osons faire. Conclusion. Dieu vous a-t-il parlé personnellement à travers ce récit? Écoutez ce qu'il veut vous dire ce matin. Nous allons avoir la Sainte Cène pendant laquelle vous pourrez prier et dans le contact avec le Seigneur, mettre quelque chose en ordre. Et je suis sûr qu'il a gardé quelque chose pour chacun de nous ce matin. Prions. Seigneur, que veux-tu nous donner personnellement ce matin? Montre-nous à quel niveau nous sommes dans notre relation avec toi. Et pendant la Sainte Cène, montre-nous le chemin pour progresser dans notre vie spirituelle. Amen.